L'atelier numérique.
L'atelier numérique.
François Sorel sur BFM Business.
Salut à tous et bon week-end sur BFM Business et merci d'être là comme chaque samedi 16h-18h. C'est l'atelier numérique, votre rendez-vous dédié aux nouvelles technologies. On est ravis de vous retrouver comme chaque samedi depuis de nombreuses années maintenant. Et c'est un vrai plaisir que de partager ces deux heures en votre compagnie avec évidemment toute l'équipe de l'atelier numérique qui sera là tout à l'heure. On va retrouver Antoine Cyr pour son crash test et sa sélection de gadgetos. Nathalie Doré nous rejoindra un petit peu plus tard pour son Silicon Carnet. Et dans ce studio, à mes côtés, pour l'instant, nous avons Aurore Géraud et Lila Megraoua. Bonjour à toutes les deux.
Bonjour.
Et Jean de Chambure est avec nous depuis la Chine. Bonjour Jean.
Bonjour François, bonjour à tous.
Eh bien voilà, Jean de Chambure qui, vous le savez, chaque samedi dans cet atelier numérique nous propose sa vision de l'actualité vue d'Asie. On va la retrouver dans un instant bien sûr avec deux petites actus. Au menu de cet atelier tout à l'heure, donc je le disais, Silicon Carnet, Cyber Gadget. On retrouvera aussi notre focus startup, notre enquête de l'atelier, notre web stratégie. Et puis, pour notre enquête, donc tout à l'heure, on évoquera la maison qui est sans doute le premier jalon de la Smart City. Vous le savez, aujourd'hui, la maison intègre de plus en plus d'objets connectés. Il va falloir évidemment que tous ces objets discutent entre eux. Peut-être que ces données pourront aussi transpirer du côté de la maison, de la ville connectée. Ce sera notre sujet tout à l'heure, notre enquête de l'atelier avec nos invités que nous serons ravis d'accueillir, notamment David de Amorine qui est en fait le chef de l'innovation du groupe La Poste, parce que La Poste est vraiment très présente sur tout ça. Et puis le crash test d'Antoine, bien évidemment. Et on retrouvera aussi la rédaction de ZeroNet.com avec Eric Le Bourlou, bien sûr. Voilà, vous savez tout. Bienvenue dans cet atelier numérique en ce 5 mars et on commence par l'actu vue par toute l'équipe de l'atelier. Mesdemoiselles, je ne pense que vous n'allez pas m'en vouloir si on débute par Jean de Chambure, hein ?
Bien sûr que non.
Avec plaisir.
Priorité à l'éloignement, on peut dire ça comme ça. Mon cher Jean, c'est vous qui avez l'honneur d'ouvrir le bal cette semaine.
Ah bah écoutez, alors à ce moment-là, je vais vous parler de quelque chose qui est assez fracassant en Chine en termes de chiffres, hein, toujours, c'est le marché du jeu vidéo. Il faut se mettre quand même à la place de toute une génération de Chinois qui, contrairement à nous, n'a pas connu les fameuses Xbox, les PlayStation, les Nintendo 64. Ils sont arrivés directement, en fait, avec des jeux web et des jeux sur mobile, et des jeux, bien sûr, sur ordinateur, sur PC. Mais donc, aujourd'hui, c'est un marché qui est hyper important. On parle de 22 milliards de dollars, donc le premier marché mondial. Et qu'est-ce qui se passe, en fait, sur ce marché-là? Donc, il y a plusieurs choses intéressantes. Il y a d'abord l'atterrissage progressivement du mobile, hein, qui est passé aujourd'hui un peu plus de 36% de part de marché dans le marché global. Bon, ça, c'est une chose. Il y a la réalité virtuelle qui arrive de plus en plus. Vous savez que Oculus Rift va arriver en Chine le 28 mars prochain. Donc, ça va pas mal bousculer le marché chinois. Mais il y a déjà beaucoup de constructeurs hardware, d'éditeurs de soft qui sont positionnés sur la réalité virtuelle. Donc, ça, c'est un autre point intéressant. Les spectacles, alors ça c'est complètement fou, les spectacles de e-sport, c'est-à-dire en fond les spectacles de jeux vidéo qui marchent de plus en plus. Rendez-vous compte, François, qu'un commentateur de spectacles de jeux vidéo en Chine gagne l'équivalent de 1,5 million de dollars. Donc
c'est incroyable.
Assez incroyable, hein, le business qu'il y a derrière tout ça.
Oui, le Jean-Michel Larquet du jeu vidéo, quoi, oui, en quelque sorte, c'est ça?
Exactement. Moi, là, j'en suis très loin parce que mon niveau chinois ne me permet pas encore de gérer toute ma vie courante aujourd'hui. Mais
bon, alors, ça sera assez sommaire, peut-être, comme commentaire.
Oui, voilà, exactement. C'est pour vous dire à quel point ça marche, en tout cas, ce genre de spectacle là-bas. Il va y avoir un peu de consolidation aussi dans ce marché. Donc, vous savez que le leader, c'est Tencent, encore Tencent, hein, donc celui qui fait le fameux WeChat, le Facebook chinois. Il y a NetEase aussi, qui est un autre éditeur. Et puis, alors, l'autre tendance qui est très étonnante, c'est ce qui s'appelle le Pine Entertainment. Alors, le Pine Entertainment, qu'est-ce que c'est? C'est très rentable en termes de propriété intellectuelle, c'est-à-dire, en gros, vous avez une histoire, et cette histoire, vous allez la mettre en série à la télévision, vous allez la rendre lisible sur les livres digitaux, e-book, et vous allez évidemment la rendre interactive avec un jeu sur mobile. Et alors ça, franchement, ça marche très 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 fort. Il y a aujourd'hui une histoire qui s'appelle Le Voyage d'une fleur, le roi au Kiangu, qui est une histoire d'amour un peu fantastique et qui marche très très bien sur tous ces canaux-là. Donc ça, c'est l'autre tendance, le Pan Entertainment.
Parfait. Merci Jean. On écoute Aurore maintenant pour sa petite news de ce samedi.
Oui, alors moi je vais vous parler d'un petit morceau de verre hein, rond qui permet de stocker toutes les données de l'humanité.
Non, rien que ça.
Incroyable.
C'est pas mal.
Ouais, c'est pas mal. Des scientifiques en fait de Southampton.
Super bien prononcé là, franchement. On dirait Jean de Chambure qui commande des jeux chinois.
Traductrice. Pas du tout. on réussit en fait à imprimer en 5D. Attention, 5D via laser, un tout petit disque du coup, qui pourrait contenir jusqu'à 360 terabits de données. Alors, le but de ces petites pastilles serait de permettre d'enregistrer tous les documents les plus importants de l'humanité et qu'on ne puisse jamais les perdre.
D'accord.
Alors, ils ont déjà mis la Bible. La déclaration des droits de l'homme dessus, et l'idée ce serait vraiment de numériser tous les documents de bibliothèques, voilà, tout à fait,
nationale.
Pour qu'on ne le perde jamais, et sachant que cette petite bille donc va supporter jusqu'à 1000 degrés de Celsius.
Ah oui.
Et que si elle est tenue dans une pièce normale, elle peut être à vie, elle ne pourra jamais être détruite.
Incroyable. Aurore, mais c'est génial votre
truc. Parce que c'est indégradable.
Ah oui, c'est du verre.
C'est
fou ça.
C'est étonnant.
C'est dingue, ça me fait penser au film La Planète des Singes. Je sais pas si vous l'avez vu. Il y a justement un épisode où il retrouve accidentellement des vieux disques, où il retrouve des vieilles images du passé, et c'était justement des petits CD.
C'est
quand même étonnant quand même hein. Le gars qui avait créé tout ça avait eu cette idée. Bon, j'espère qu'ils mettront quand même un petit bout de l'atelier numérique
hein, certainement
quand même. Pour la postérité quand même, ça serait bien hein. Lila.
Je vais faire un grand écart.
Allez-y.
Je vais faire un grand écart et vous parler de ransomware. Alors, il me semble qu'on en avait déjà parlé il y a plusieurs mois déjà, notamment avec le patron de F-Secure, Mikko Hyppönen, et qui pointait
il a un nom sympathique,
en fait,
dites-moi.
Ouais, Mikko Hyppönen.
Il est
finlandais. Et donc, il évoquait ce sujet du ransomware. En français, si on essaye de traduire, ça pourrait être le rançon giciel. Et donc, vous allez me dire, mais qu'est-ce que c'est que ça? Alors, c'est tout simplement, c'est un dérivé du malware, mais qui va donc crypter vos données personnelles, les hacker, et la rançon, vous demander de l'argent pour obtenir la clé permettant de les déchiffrer. À savoir que vous pourriez, et d'ailleurs, il y a déjà eu des cas de Moto Dugatti qui se sont fait hacker. De cette manière où en fait leurs propriétaires se sont vus réclamer par ces ransomware une rançon en échange duquel ils remettaient la clé permettant de débloquer cette moto Dugatti connectée. Alors pourquoi je vous en parle? Il y a tout simplement une attaque qui aurait eu lieu dans un hôpital américain il y a 2 semaines et qui montre bel et bien que le phénomène pourrait prendre de
oui,
l'ampleur.
De l'ampleur, oui.
Et, et c'est vrai que à l'heure, on va parler plus tard de ville connectée, la voiture autonome est connectée. On est en droit de
se poser la question. Parce que s'il y a un gars qui vous bloque tout et qui vous dit ben voilà, pour retrouver ta vie numérique, il faut 100 000 euros. On est un peu embêté quand même.
Et ben là, la somme demandée pour restaurer le système, parce qu'en fait, il s'agissait du centre médical presbytérien d'Hollywood, qui a été la cible de cette attaque. La somme demandée pour restaurer le système était de 3,6 millions de dollars. Donc le FBI a été mandaté pour retrouver les hackers. Et en attendant, les patients ont dû être réorientés vers d'autres centres de soins.
Oui, parce que tout était bloqué, en fait.
C'est ça.
C'est incroyable.
C'est ça.
Ça fait vraiment peur, ça. Hein. Et ça peut peut-être donner des idées à des scénaristes pour faire des films sympas. Hein.
Oui,
je suis sûr que ça va arriver, ça.
Oui, c'est vrai.
C'est pas mal. Mon Jean, encore une petite news.
Alors écoutez, du coup, une petite news en lien avec les sujets futurs de l'émission, à savoir donc la Smart City, les villes connectées. C'est quelque chose qui est en train de se passer en Asie. Vous avez peut-être suivi ça il y a quelques semaines. Facebook a été débouté en fait en Inde par les autorités telco en gros du pays. Vous savez que l'Inde aujourd'hui, il y a 30% de connectés, de personnes qui sont connectées, ce qui est assez important. Mais évidemment, il y a des tas d'endroits dans les campagnes en Inde où il y a des gens qui n'ont pas accès à Internet. On a été débouté pour une raison assez simple, c'est qu'il proposait une version gratuite de l'Internet. Simplement, il décidait lui-même de qui pouvait ou non être dans cette sorte de kiosque de contenu. Donc ça n'allait évidemment pas par rapport à la neutralité du net. Je vous parle de ça pourquoi ? Parce qu'en fait, bon, vous connaissez un peu les grands systèmes proposés par les GAFA, que ce soit Google Loom avec ses idées de ballons, Facebook Aquila avec ses idées de drones qui proposent des lasers pour se connecter. Il y a aussi SpaceX avec Elon Musk qui propose des micro-satellites. Tout ça, c'est des idées très, très intéressantes pour connecter un peu partout les gens à Internet. Mais il y a aussi quelque chose dont on parle un petit peu moins, qui est le fameux réseau mesh. Et le réseau mesh, en fait, c'est quelque chose d'intéressant. Donc, ça utilise le Wi-Fi des téléphones qui est connecté. Donc, il n'y a pas de problème de réglementation parce que c'est du Wi-Fi légal. Simplement, c'est du Wi-Fi qui est ouvert à tous. Il faut juste que les gens soient assez proches les uns des autres. Et dans un pays asiatique comme l'Indonésie, qui est un pays où il y a énormément d'habitants, plus de 100 millions d'habitants, eh bien, il n'y a que 17% de la population qui est connectée. Il y a beaucoup de campagnes dans lesquelles les gens habitent très proches les uns des autres, avec une grande densité de population. Et donc, peut-être que ce réseau mesh serait une alternative intéressante pour connecter les gens qui sont dans les campagnes et qui ont peut-être...
C'est-à-dire que chaque smartphone sert de relais pour un autre, c'est ça ? Et on crée réseau Internet grâce à ce réseau de smartphones. C'est assez étonnant.
Tout à fait, voilà. Et donc du coup, c'est une alternative intéressante à toutes ces idées proposées par Google, Facebook et autres.
Très bien, merci beaucoup Jean. Aurore Géraud.
Oui, c'est moi.
C'est elle. Alors, après petit disque qui va pouvoir stocker toutes les données du monde à vie, qu'avez-vous ? Parce que là, vous avez tapé fort quand même, là.
Hein. Ouais, mais je reste dans sauvons l'humanité.
Sauvons l'humanité, en toute simplicité.
Oui, en toute simplicité. Moi, je vais vous parler d'un réseau, on va dire réseau social via application, qui permet de prédire les tremblements de terre. Alors, on a vu plein de choses sur les tremblements de terre, notamment de détecter via les réseaux sociaux, prédire via les réseaux sociaux les tremblements de terre. L'université de Californie a pour sa part décidé de créer vraiment un réseau en demandant en fait en s'appuyant sur les 16 millions de smartphones disponibles en Californie, donc tout le monde n'a pas évidemment cette application, mais en s'appuyant donc sur ce réseau de smartphones pour faire télécharger une application qui s'appelle MyShake, qui permet de détecter évidemment via un accéléromètre, via l'accéléromètre du téléphone, quand un tremblement de terre a lieu.
Un séisme, oui.
Mais surtout, l'idée c'est vraiment de faire la prévention. Alors ça devient un peu moins sympathique, c'est-à-dire que si un accéléromètre se déclenche à une telle partie d'une région, on alertera les personnes qui potentiellement
pourraient être impactées.
Voilà, pour un peu plus loin dans la région.
D'accord.
C'est vraiment l'idée de réseau. C'est si de votre côté vous avez un tremblement de terre, votre voisin dans la ville d'à côté va bientôt le recevoir. Attention, je vous préviens que vous allez devoir
peut-être avoir un problème.
Voilà.
Mettez-vous sous la table.
Donc apparemment, ça marche pas mal.
D'accord.
Parce qu'on pourrait se poser la question, on a son téléphone dans la poche et si ça tremble, je peux marcher puis ça peut trembler, je peux faire une activité. Et apparemment, ils ont réussi à faire en sorte de détecter jusqu'à 93% de bons résultats.
D'accord.
À ce niveau-là.
Pas mal,
ouais.
Intéressant. Lila, pour terminer.
Pour terminer, je vais vous parler de gendarmes après de rançon. Parlons gendarmes et drones. Alors apparemment, la gendarmerie française expérimente depuis près de 2 ans déjà l'utilisation des drones de surveillance principalement. Donc cette phase est sur le point de s'achever et les drones devraient bel et bien intégrer l'arsenal de la gendarmerie française. Alors cette flotte de drones pourrait servir, alors, à la fois au maintien de l'ordre, alors un cas très concret, les manifestations. Ça permettrait de manière assez facile de pouvoir surveiller un peu les mouvements et les différents incidents. Et également, voire de filmer directement les infractions en vue d'arrestations futures. Ces fameux drones devraient également être utilisés dans le cadre de la sécurité routière. Alors, pour surveiller, par exemple, le trafic routier, pour pouvoir analyser une zone d'accident, pour aussi cafeter les infractions telles que les excès de vitesse, les dépassements dangereux, les franchissements de lignes continues.
Ça, c'est moins bien.
Voilà. Donc, les drones devraient...
Ne seront plus drôles.
Tout à fait.
C'est ça.
Alors pour autant, ces drones seront de taille modeste parce que l'idée c'est pas qu'ils soient si repérables. En revanche, leur autonomie est assez limitée. Elle est de 25 à 30 minutes. Mais en tout cas, ça y est, c'est lancé. Les drones font bel et bien partie de la flotte de la gendarmerie française.
Eh bien voilà. Donc faites attention à qui vous survole. Hein.
C'est ça.
Merci beaucoup Lila. On revient dans un instant pour la suite de cet atelier numérique avec, comme d'habitude, le Silicon Carnet et la sélection de gadgets de la semaine. A tout de suite sur BFM Business.
L'atelier numérique. François Sorel sur BFM Business.
C'est l'atelier numérique sur BFM Business. Dans un instant, il sera question d'Actech avec Pauline Conteneur pour notre Silicon Carnet. Mais auparavant, la sélection de gadgets du seul, de l'unique, le vrai testeur de gadgets que nous avons chaque samedi dans cet atelier, c'est Antoine Cyr. Antoine, vous allez nous parler d'une imprimante cette semaine.
Oui.
Alors attention, elle intéresse bien parce que les imprimantes, ça fait pas rêver.
Non,
en général,
ça fait pas rêver. Puis alors, c'est quand même, il y a un autre truc qui fait pas rêver, en l'occurrence, mais ça n'a rien à voir avec la qualité de la start-up. Mais, il y a une start-up, qui a donc créé une imprimante qui commande toute seule de nouvelles cartouches d'encre chez Amazon. Alors je vais vous expliquer ce que c'est. Mais d'abord, il faut savoir quand même que cette start-up, qui est en partenariat avec Samsung, s'appelle donc, Amazon Dash. Donc c'est en fait la start-up interne de Amazon qui est la branche de service appliquée à la bureautique. C'est une c'est une activité qui se développe chez Amazon. Moi je sais pas si c'est une bonne idée que Amazon appelle une de ses, je sais pas comment on dit quand il y a des intrapreneurs, une de ses intraprises Amazon Dash. Voilà, je sais pas pourquoi, mais c'est pas un nom.
Ouais.
Voilà, c'est pas méga porteur.
Ouais. Et puis en plus chez nous ça fait lessive. Donc
voilà. Ça fait lessive. Oui, ça fait aussi. En plus. Ça fait lessive.
Et même pas que chez nous d'ailleurs.
Ouais, non, Dash, tout à fait. Bon, voilà. Alors après, peut-être qu'en anglais, ça passe très bien.
Sans doute.
Mais bon.
Et donc cette imprimante. Alors.
Donc via une application sur smartphone, l'utilisateur choisit s'il veut commander lui-même ses cartouches d'encre ou s'il en laisse le soin à son imprimante. L'application évidemment permet aussi d'imprimer directement quelque chose depuis votre téléphone portable ou votre tablette. Et alors là, ce qui se passe, c'est que lorsque vous avez donné votre accord pour qu'elle fasse ça, votre imprimante mesure elle-même les niveaux d'encre. Et donc, c'est là qu'évidemment, le fait qu'on soit chez Amazon présente un intérêt pour eux.
Un intérêt certain.
Certain pour vous, mais aussi, il faut bien le dire, pour eux. Hein, puisque avant que vous soyez à court d'encre, l'appli vous dit « Mais pas de problème, je m'en occupe, j'appelle Amazon. » Et tout est fait pour que vous receviez de l'encre pile avant qu'elle ne vienne à manquer.
Pas mal. Vous savez que c'est HP a aussi ce même système. Hein. C'est quelque chose qui est en train de se généraliser. HP aussi des imprimantes qui commandent les cartouches dès que vous manquez d'encre et vous les recevez pour les changer.
Donc là, c'est un partenariat entre Amazon
et Samsung.
Et Samsung. Et le système de HP, je crois qu'il s'appelle Instant Ink.
Exactement.
Instant Ink. Voilà.
Un autre petit gadget, Antoine, pour la route.
Oui, un thermomètre à viande connecté. pour une cuisson au point.
Alors là, regardez, Lila même n'en revient pas.
Voilà. Non, mais franchement, tout le monde est là, on est tous là. Il y a la food tech, il y a le food porn qui a envahi les pages Instagram, les comptes Instagram des uns et des autres. Et donc, voilà, pour tous ces gens-là, c'est bien d'avoir de la nourriture qui est belle à photographier, mais de temps en temps, c'est bien aussi qu'elle soit bonne à manger. Et donc, il y a un smart thermomètre de cuisson qui permettra aux amateurs de viande de s'assurer que leur entrecôte sera tendre ou à point. Évidemment, tout ça se fait tout à fait sans fil. Donc, c'est un thermomètre qui s'appelle Meater, qui s'accompagne d'une Meater, évidemment, M-E-A-T-E-R, qui s'accompagne d'une application qui permet de suivre en temps réel la température ressentie dans le four, mais aussi à l'intérieur de la viande. Donc, vous avez compris qu'il vaut quand même mieux envoyer le thermomètre à votre place que y aller vous-même. Et donc, évidemment, l'appli connectée au thermomètre va adapter le temps restant selon le mode de cuisson que vous avez demandé. Bien entendu, ça marche pour la viande, mais pour ne rien vous cacher, ça marche aussi pour le poisson. Le thermomètre fonctionne grâce au Bluetooth et au Wi-Fi pour être sûr d'avoir toujours la connexion optimale. Et bien entendu, vous avez compris que vous l'insérez dans la viande ou le poisson à cuire. Vous pouvez d'ailleurs utiliser plusieurs thermomètres à la fois dans le même four et cuire différentes viandes en même temps pour des rendus différents.
Voilà. D'accord, si on est pressé.
Voilà, exactement.
C'est pas mal.
Il a une batterie de 2 jours s'il est complètement utilisé. Donc, vous voyez que ça laisse quand même de la ressource.
Alors, en tout cas, espérons que cette innovation ne fasse pas un four, si je puis me permettre.
Je suis au bord de l'évanouissement d'admiration, bien sûr.
Antoine, merci. Et place maintenant à notre Silicon Carnet. Cette semaine, c'est avec beaucoup de plaisir qu'on accueille Pauline Kantner dans l'atelier de l'Atelier US. Bonjour, Pauline.
Bonjour.
Alors, Pauline, aujourd'hui, on va parler d'innovation dans l'agriculture, plus connue sous le nom d'AgTech. On en parlait d'ailleurs la semaine dernière, en particulier aux USA.
Alors oui, tout à fait, François. On est en Californie. Terre de start-up, mais aussi terre d'agriculture. Et ce qui donne naissance à un mélange explosif, c'est l'AgTech. Alors c'est un secteur qui est en plein boom aux USA. À l'échelle mondiale, les chiffres sont assez significatifs. 4,6 milliards de dollars ont été investis en 2015 dans l'AgTech, selon AgFunder, soit le double de 2014. Et on a notamment des investissements dans l'irrigation, les drones et la robotique.
Alors on va parler de tout ça, de drones, de robotique, mais auparavant peut-être un mot sur à quoi ressemble l'agriculture aux USA, Pauline ?
Alors voilà, selon le ministère de l'agriculture américain, on a un peu moins de 16 millions de personnes qui travaillent dans le secteur agricole aux États-Unis. C'est environ 9,2% de la population active. On recense un peu plus de 2 millions d'exploitations agricoles. Et en moyenne, une ferme, c'est 438 hectares aux États-Unis. Alors, en France, il faut savoir qu'une ferme, en moyenne, c'est 90 hectares. Donc, on n'est pas du tout sur la même échelle. Une autre donnée intéressante pour comprendre l'agriculture aux États-Unis, 2% des fermes réalisent 35% de la production agricole. Ce qui veut dire qu'on a des sortes de super exploitations gigantesques. Et d'ailleurs, anecdote, certaines ont des comptes Twitter avec plus de milliers de followers que je suis personnellement.
Donc les startups œuvrent pour solutionner des problèmes. Et à quel challenge viennent répondre ces startups de l'AgTech?
Alors c'est vrai que quand on n'est pas issu peut-être de milieu, on a envie de parler changement climatique ou challenge démographique, population mondiale qui augmente. Mais en vérité, si on regarde exactement qu'est-ce que c'est aujourd'hui être un agriculteur et quels sont les challenges de tous les jours, en tant que fille d'agriculteur, je peux en parler. En fait, l'agriculteur doit gérer une quantité d'informations extrêmement importante. Des informations qu'il ne maîtrise pas toujours, dont il n'a pas une connaissance très précise. Prenons l'exemple simple de la météo. Ou la fluctuation du cours des céréales, ou quelle est exactement la santé de ma vache à l'instant T. Et aujourd'hui, l'AgTech permet en fait de prendre des décisions qu'on pourrait être qualifiées plus intelligentes grâce au big data, à l'analyse des données. Ces décisions intelligentes combinent l'analyse de données, mais aussi l'expertise de l'agriculteur lui-même. Et ça a des bénéfices, premier étant optimiser l'utilisation des intrants, donc l'eau, les fertilisants, les pesticides, permettre aux agriculteurs d'optimiser leur production d'une manière générale et de mieux maîtriser leurs finances à terme.
Et aux USA en particulier, quelles initiatives voit-on émerger, Pauline ?
On voit beaucoup de choses dans ce qu'on appelle la smart irrigation, donc l'irrigation intelligente. Vous êtes sûrement pas... comment dire, étranger à la sécheresse que nous subissons en Californie depuis 2014. Mmh. C'est une catastrophe et en fait, ça fait émerger beaucoup de projets et d'initiatives, ce qui est une bonne chose. On peut notamment citer cette start-up qui s'appelle Tulle. Donc rien à voir avec François Hollande et la Corrèze. Basée à San Francisco, cette start-up crée des capteurs qui sont basés sur les équipements d'irrigation et qui permettent d'informer en temps réel l'agriculteur de possibles fuites grâce à des notifications sur son smartphone. Chose qu'avant, il était obligé de faire en se rendant dans le champ et visuellement de vérifier les fuites ou de se rendre compte qu'il y avait sûrement un problème vu sa facture en énergie. Voilà. Et donc ça permet d'une part, effectivement, d'être plus au courant rapidement de ce qui peut se passer dans son champ et d'avoir des informations en temps réel.
Pauline, pour terminer, on entend aussi beaucoup parler des drones à l'Actech en Californie.
Ouais, tout à fait. Une start-up qu'on aime beaucoup ici, qui était présente lors de notre meet-up, donc notre événement organisé sur l'Actech mardi dernier. C'est une solution qui propose de l'imagerie haute résolution, qui rend possible la prise de photos aériennes grâce à des caméras embarquées sur des drones ou des ailes d'avion, qui donnent des informations très précises aux agriculteurs sur l'état de leur culture. Ce qui transforme en fait l'agriculteur en un fermier augmenté, en quelque sorte, qui peut prendre des décisions intelligentes et qui a même de répondre à ces challenges de tous les jours.
Merci beaucoup, Pauline. Pauline Kantner, donc, de l'atelier US, vous le savez, pour ce Silicon Carnet. On revient dans un instant, la suite de l'atelier numérique sur BFM Business. Et dans une minute, vous restez là, bien sûr. À tout de suite.
L'atelier numérique.
L'atelier numérique.
François Sorel sur BFM Business.
L'atelier numérique sur BFM Business. Dans un instant, on va parler de maisons connectées, de Smart City. Vous verrez qu'on a trouvé des rapports entre les deux. On évoque ça avec nos invités dans une minute, mais auparavant, notre focus start-up. Et on va parler d'épargne et de plein d'autres choses maintenant avec notre invité et avec vous, Aurore Géraud.
Donc je suis avec Nicolas Marchandis qui est le créateur de Advise. Nicolas, bonjour.
Bonjour Aurore.
Alors qu'est-ce que Advise ?
Advise, c'est un robot advisor. Donc qu'est-ce qu'un robot advisor ? Un robot advisor, c'est une plateforme qui permet de robotiser l'épargne des Français. C'est-à-dire connaître leurs besoins. Dans des mots qu'ils peuvent comprendre, ensuite leur proposer une solution d'investissement qui leur correspond, leur permettre d'exécuter, c'est-à-dire d'ouvrir un compte et d'investir par rapport donc à ce profil qu'on a pu établir ensemble, et chose très nouvelle, de recevoir un reporting régulier qu'on a appelé la météo de votre épargne, tous les vendredis, une information sur l'évolution de votre épargne, qu'est-ce qui s'est passé, pourquoi, et surtout, est-ce qu'il faut faire quelque chose. Tous les vendredis, tous nos clients, même les plus petits, reçoivent cette information, ce qui leur permet 52 fois par an d'avoir un réconfort sur le fait que leurs placements sont bien cohérents avec leurs besoins et leurs solutions. Et si c'est pas le cas, nous avons développé une solution qui permet d'informer tous nos clients lorsqu'il y a un changement à faire, et en 3 clics, ils sont capables de le valider. Donc même ma mère peut s'en servir.
Du coup, un robot, on pourrait penser que ça fait peur, un robot, puisque c'est de la technologie et qu'il n'y a pas de retour humain. Mais au contraire, on a l'impression que votre solution fait l'inverse. C'est le but, c'est de retrouver l'humain dans la technologie.
Alors, on essaye d'humaniser le digital. Je ne sais pas comment est-ce qu'on peut dire ça. Non, plus sérieusement, ce qu'on a voulu, c'est permettre d'apporter au plus grand nombre un accès à un service qui aujourd'hui était réservé à une élite dans la banque privée, parce que tout le monde a le droit d'être conseillé, tout le monde a le droit d'avoir un suivi, tout le monde a le droit d'avoir des propositions de changement. Depuis 20 ans, l'épargne en ligne n'a jamais vraiment décollé en France. C'est aujourd'hui moins de 3% du marché. La raison est qu'on a essayé de transformer les gens en traders avec des outils, avec des centaines, des milliers de produits. En vérité, ça intéresse 30 000 personnes en France. Advise veut démocratiser l'accès à l'épargne, à la gestion, au conseil, en ligne. Et ce n'est pas parce qu'on est en ligne qu'on ne doit pas s'adapter aux clients d'abord, avoir une expérience client et surtout permettre l'accès à des vrais conseillers à travers des emails, à travers un service client disponible, comme dans un établissement normal, le conseil en plus.
Donc concrètement, si moi, utilisatrice, je me connecte à votre plateforme, comment ça fonctionne? Quels sont les échanges, les retours qu'il peut y avoir avec le robot?
Alors le robot va d'abord vous accompagner dans la définition de vos besoins. Parce que on considère qu'il faut aider les clients à déterminer par rapport à leurs objectifs les solutions qui sont adaptées. Donc ça, c'est le robot qui va interagir avec vous. Ensuite, vous permettre d'investir de manière simple et de recevoir ce reporting personnalisé toutes les semaines. Lorsque vous voulez changer votre vie, lorsque vos objectifs évoluent, lorsque les marchés évoluent, lorsqu'il y a une raison de ne plus, que l'alignement entre vos besoins d'un côté, ce que vous avez dans vos investissements et ce que vous devriez avoir n'est plus bon, c'est là où la vraie force se montre, parce que tous les clients concernés sont informés en même temps et peuvent en trois clics exécuter les transactions nécessaires. Ce qui, encore une fois, dans le monde réel, n'existe pas.
Du coup, qu'est-ce qu'on peut vous souhaiter pour la suite ?
Encore plus de développement, des partenariats, et à Finovet, on a pu faire des rencontres intéressantes pour, pourquoi pas, aller en dehors des frontières.
Aurore, merci, et place à notre enquête de l'atelier, menée par Lila Megraoua et en compagnie de nos invités. On va faire le lien entre la Smart City et la maison connectée.
La maison. Mais oui, parce que cette fameuse ville intelligente, il faut bien commencer par la composer. Alors, elle existe déjà bout par petit bout, solution de conciergerie par-ci, de stationnement par-là. Mais cette révolution se passerait dans la proximité et aussi à la maison. Alors, comment connecter ma maison à tout cet écosystème que doit être la ville intelligente ? C'est ce qu'on va découvrir avec nos invités qui, chacun à leur manière, posent un peu leur pierre à la réflexion et à la conception de la ville de demain. Alors, nous avons Pierre Bonzon. Bonjour.
Bonjour.
Alors, Pierre Bonzon, vous êtes président de la start-up Ella Innovation. Et David de Amorim, bonjour.
Bonjour.
Alors, David, vous êtes directeur innovation de DocaPost du groupe La Poste. Alors, David de Amorim, on l'a vu avec François lors du CES, le groupe La Poste pose clairement sa transformation digitale et sa transformation tout court autour de cette idée de proximité dans la ville intelligente. À savoir que la ville intelligente n'est rien si on ne pense pas service de proximité, c'est ça ?
Vous m'enlevez les mots de la bouche, c'est effectivement ça. La Poste, c'est un acteur qui, depuis toujours, est à l'interface, finalement, entre la maison, le foyer, et la ville, le quartier. On a des facteurs qui passent tous les jours. C'est le premier opérateur de services de proximité au quotidien des Français, des boîtes aux lettres. On a des bureaux de poste. Finalement, on est un acteur assez incontournable dans cette interface entre l'individu, sa maison et la ville. Et bien évidemment, la vie numérique des individus, elle n'est pas fractionnée. Il n'y a pas une vie numérique à la maison, puis une autre vie numérique dans les transports, et encore une autre vie numérique au travail ou avec la gestion de l'énergie. Et finalement, nous, on s'attaque à un sujet qui est assez central pour le développement de cette économie numérique, et notamment au travers des smart cities, qui sont d'amener avant tout, non pas de la technologie, mais bel et bien des services. Et on commence par des services très simples, qui sont ceux qu'on connaît à La Poste. Et puis, bien évidemment, on va chercher à les enrichir pour adresser aussi des problématiques des villes connectées.
Alors Pierre Bonzon, j'imagine que vous devez partager cette idée-là d'une ville connectée, mieux connectée, si elle repense la relation avec le quartier et la maison, puisque vous avez développé et lancé récemment Coin Move. Alors Coin Move, c'est un dispositif qui permet tout simplement à la voiture de parler avec la maison. Au lieu de vous demander dans quel but.
Oui, en fait, pour bien expliquer le positionnement de l'innovation, on est vraiment le complément par rapport à La Poste. C'est-à-dire que nous, on est fabricants d'objets connectés. Ils vont se connecter. On a besoin des services de La Poste pour pouvoir donner ces informations à l'utilisateur final. Alors, et l'innovation est positionnée sur un marché vraiment de l'objet connecté industriel. Et le Coin Move a été la première ouverture de notre marché sur le marché du consumer, avec une tentative qu'on a faite pour la première fois au CES en 2016. Pour faire simple, Coin Move, c'est un peu un système de télépéage intelligent. C'est-à-dire que non seulement ça va pouvoir permettre d'ouvrir, lorsque vous arrivez chez vous, votre maison, votre porte si vous êtes un piéton, ou tout simplement le garage si vous êtes une voiture, mais en plus de ça, ça va pouvoir analyser le comportement du véhicule et éviter d'ouvrir si le véhicule est simplement stationné à côté du portail, que ce soit à l'intérieur ou à l'extérieur.
D'accord, donc il y a une notion d'intelligence suivant le contexte, c'est ça ?
Exactement, en fait on a récupéré tout le savoir-faire qu'on avait sur l'avant CoinMove qui était un capteur de mouvement sans fil dans les objets connectés industriels, qu'on avait positionné sur le marché de la sécurité des œuvres d'art et sécurité des biens à forte valeur ajoutée, et également dans le transport de fonds. Donc on a récupéré tout ce savoir-faire en termes d'intelligence et d'analyse de comportement en termes de mouvement, et on l'a modifié et adapté pour en faire un produit qui est orienté consumer.
Donc en fait, pour se représenter, il s'agit d'un chip, d'une pièce, d'une puce RFID pour payer. Comment ça se passe? J'installe ce CoinMove dans ma voiture et j'installe également un capteur à la maison.
Oui, c'est exactement ça en fait, sauf que il y a une notion pour payer. Là, c'est gratuit. Vous arrivez chez vous, évidemment, vous n'allez pas vous facturer vous-même l'entrée à votre domicile.
Ouais, ça peut être pas mal hein, si on facture à tous les membres de la famille. Ça peut être bien.
Oui, c'est une idée.
Une petite cagnotte, hein, pour être sympa. Pourquoi je sais pas si tout le monde sera d'accord, mais bon.
Mais après, pour revenir sur l'aspect encombrement, effectivement, c'est beaucoup plus petit qu'un système télépéage. Notre force, c'est d'arriver à faire des produits qui sont très compacts. Donc, ça peut très bien se positionner sur un pare-brise à la taille d'une pièce de monnaie. Ça peut très bien aussi se glisser dans le cartable d'un enfant ou dans le sac ou dans un cartable d'une personne. Et surtout, l'avantage, c'est que ça a une durée de vie qui est très importante puisque avec ce produit, on dépasse les 10 ans de durée de vie.
Est-ce que ça pourrait être couplé aux grands opérateurs de parking, type Vinci Park, par exemple? Est-ce que je pourrais coupler mon coin à mon abonnement Vinci?
Tout à fait, sur la partie plutôt des abonnés, en fait, hein, puisqu'on n'est pas on n'est pas sur de la gestion de la monétique simplement. Il y a quand même un objet physique à poser sur son véhicule. Et d'ailleurs, quand je vous ai dit, on présente ça sur le marché du consumer, ce qu'il faut savoir, c'est qu'avant, notamment, on parlait de transport de fonds, et notamment, je pourrais citer la Brinks, par exemple, a adopté ce système dans un cadre qui est effectivement plutôt business.
D'accord. Alors, si on revient dans la maison, vous proposez, David de la Morine, chez La Poste, de connecter la boîte aux lettres. Et ce service n'est qu'un seul parmi une myriade d'autres services qui ont été regroupés dans ce que vous appelez le hub numérique.
C'est ça, tout à fait. En fait, on a eu plusieurs paliers, on a franchi différentes étapes, on a équipé tous nos facteurs d'un smartphone, donc ils sont devenus aussi numériques, donc ils peuvent amener avec eux des services de proximité et des services en lien avec la ville, pouvoir faire du portage de médicaments, par exemple, de repas, etc. C'est rendu possible maintenant, on a la plus grande flotte de smartphones d'Europe, avec 90 000 facteurs équipés, donc c'est une infrastructure numérique à l'échelle non seulement de la ville, mais du pays presque. Donc là, on est dans le smart country. Ça, c'est une première étape. On a franchi aussi d'autres étapes en développant nous-mêmes des plateformes numériques pour la gestion de la relation citoyen, par exemple, où on est, par exemple, aussi premier opérateur de système de vote électronique, puisque c'est important aussi dans la ville de pouvoir exprimer des opinions et dans la logique participative, le like, le dislike, hein, tout ça, c'est amené par le numérique, cette volonté aussi de participer à cette vie sociale. Et puis, petit à petit, on se rapproche de la maison. Alors, évidemment, avec cette boîte aux lettres connectée, ça existe depuis un certain temps avec Citissimo, au travers du colis, des grandes boîtes aux lettres mutualisées qui vous permettent de recevoir 7 jours sur 7, 24 heures sur 24, des grands colis.
Donc mais aussi plutôt de les retourner.
Et de les retourner depuis l'automne dernier, effectivement. Donc maintenant, votre boîte aux lettres est bidirectionnelle. Elle permet d'envoyer, de recevoir, mais aussi d'envoyer des colis. Donc ça, c'est valable sur toute la France. Et puis, grâce au numérique, là, on rentre dans la dimension smart. Grâce au web numérique, notamment une plateforme IoT qu'on a présentée à Las Vegas, on a créé une capacité à connecter finalement des objets, des services numériques et des services humains entre eux. Et ça nous permet d'amener des services à valeur ajoutée dans cette ville qui est de plus en plus connectée. Mais cette connectivité doit pas être au service juste d'une finalité technologique, mais bien au service d'une finalité plus humaine, recréer du lien de proximité.
On peut avoir un exemple ou deux, David, concrètement?
Alors, très concrètement, on a lancé le bouton connecté. Alors le bouton connecté, c'est l'idée qu'on peut avoir un objet connecté très simple qu'on met sur sa boîte aux lettres. Ça ressemble à un bouton, on peut pas se tromper. Il y a juste un endroit où on peut appuyer. On appuie le matin en allant au travail, en ayant mis juste un objet dans sa boîte aux lettres, et le facteur se charge de tout le reste. Tout le reste, c'est quoi? C'est de prendre cet objet, l'emballer pour vous, l'affranchir pour vous, l'envoyer pour vous. Vous voyez, c'est l'occasion, non pas d'imaginer quelque chose de très compliqué, mais simplement de repenser plus simplement plus simplement, c'est ça la grande innovation, plus simplement un service qui existe déjà et de le rendre accessible à tout le monde. Le challenge maintenant, c'est d'ouvrir tous ces services et les interconnecter entre eux, parce que vous avez observé que dans nos poches, on a de plus en plus d'appareils et de plus en plus d'applications, et ça, c'est notre gros challenge, la prochaine étape qui est devant nous.
Et oui, parce qu'il faut que tous ces appareils puissent avoir une espèce d'interface unique. C'est ça, en fait, le challenge.
Le challenge, c'est bien ça, effectivement. On le voit bien, les acteurs dans l'énergie, par exemple, aux bornes d'une activité juste purement de l'énergie ou sinon du transport, ou on peut prendre tous les compartiments de la ville connectée, finalement, ont du mal à s'imposer dans votre smartphone. Vous savez, vous utilisez que 10 applications en moyenne, hein, c'est à peu près ça, les statistiques. Et donc, toutes ces applications que vous avez, elles sont reléguées quelque part, parmi des millions. Donc, elles ont du mal à exister. Et en termes d'usage, c'est un vrai frein au développement de ce marché et de tous ces usages de la ville qui est intelligente, mais qui finalement, dont l'intelligence repose sur votre capacité, vous, à appréhender ces services. Là, on renverse le paradigme. C'est une application qui permet de connecter tous ces univers de services, de casser les cloisons et finalement d'amener tous ces services vers l'individu. On change la donne. On est dans une logique d'universalité. D'ailleurs, on a présenté des choses autour des Smart Cities avec, au précédent CES de Las Vegas, avec différents partenaires, grandes entreprises, BNP Real Estate, par exemple, dans les Smart Buildings, avec Atoll, avec Legrand, qui sont les lunettes, ou Legrand avec les interrupteurs connectés. Quel est le point commun avec tous ces acteurs? Finalement, ils sont d'univers très différents, hein, ces fameuses cloisons qui sont posées les unes entre elles. Eh bien, on est en capacité, grâce à cette plateforme universelle de la Poste, de recréer des usages transversaux. Par exemple, utiliser tous ces objets connectés pour savoir si une personne âgée a une activité normale ou non à la maison. Et si c'est pas le cas, recréer un lien de proximité, avertir le voisin, avertir un prestataire de proximité, un aidant, ou alors tout simplement demander au facteur de passer. Et ça, c'est possible.
Est-ce que justement...
Ce qui fait déjà un peu le facteur. Hein. Ce qui fait un rôle qui va au-delà de...
D'amener du courrier.
Voilà, d'amener du courrier.
Évident, c'est le premier ambassadeur de cette relation de proximité au quotidien. Nous, on le valorise énormément à travers de la Poste. On n'amène pas que du courrier, effectivement. On recrée du lien social, du lien humain. Et finalement, le numérique est au service de cette finalité, qui est d'être un opérateur universel d'échange numérique, mais aussi de services et de services de proximité. C'est ça, hein, aussi un enjeu de la Smart City, avoir une ville qui est au service des gens et pas des gens au service de cette technologie et de ces villes très technologique de plus en plus.
Est-ce qu'on pourrait imaginer demain le facteur de devenir un plombier, par exemple?
Non, ça c'est pas possible.
Non, parce ça c'est pas possible, mais est-ce que vous
n'avez pas des facteurs amené... plombiers?
Par contre, on pourrait très bien imaginer.
Non, mais en revanche, si on est dans cette logique de connexion de plusieurs services.
Alors, si on imagine ensemble, on pourrait imaginer très simplement.
Est-ce qu'on pourrait pas fusionner les deux rôles?
On pourrait imaginer très simplement, par contre, grâce à ces outils numériques qui recréent ce lien de proximité, par exemple, reparamétrer ce bouton pour permettre d'activer un service qui est celui d'un plombier. On n'a pas vocation à se substituer à ces services de proximité. Ils sont pointus en termes de savoir-faire. Par contre, on a vocation à les rendre plus simples en termes d'accessibilité à tout le monde.
Voilà, c'est nouveau le challenge de la Poste.
C'est ça, l'universalité.
Et le renouveau de la Poste aussi. Merci à nos invités.
Merci beaucoup. Je rappelle, on était avec Pierre Bonzon, président d'Ela Innovation, et David de Amorim. Vous êtes directeur innovation de Docapost, du groupe La Poste. Merci beaucoup, messieurs.
Merci.
Merci.
Merci à vous.
Et vous restez avec nous. La suite de cet atelier numérique, c'est dans un instant. Ce sera notre web stratégie, comme chaque samedi. À tout de suite sur BFM Business.
L'atelier numérique.
L'atelier numérique.
François Sorel sur BFM Business.
Merci d'être avec nous. L'atelier numérique sur BFM Business. Dans un instant, ce sera notre passion selon Sanette. On fêtera les femmes à l'occasion de la journée de la femme le 8 mars prochain avec Lila Megrawa et nos invités. Mais dans l'immédiat, c'est notre web stratégie. On s'intéresse cette semaine à PayPal et sa stratégie sur le sans contact et le paiement mobile. Et c'est avec vous, Lila Megrawa.
L'atelier numérique sur BFM Business, la web stratégie.
Oui, François. Alors, cette semaine, on va s'intéresser à la stratégie de PayPal France. Pour en parler, j'ai le plaisir d'avoir à mes côtés Damien Perilla. Bonjour.
Bonjour, Lila.
Alors, Damien Perilla, vous êtes directeur général de PayPal France. Alors, PayPal s'est séparé du groupe eBay en juillet dernier. Vous opérez actuellement une transformation mobile assez conséquente. Vous avez, on y reviendra plus tard, mais vous avez annoncé plusieurs choses au Mobile World Congress. Le paiement mobile est l'objet de toutes les convoitises. En ce moment, la concurrence est assez dense. Apple Pay, Orange Cash, voire Facebook Messenger. Votre réponse, est-ce qu'elle est dans la transformation de votre application mobile ?
Alors effectivement, on voit beaucoup d'activités sur le paysage du paiement et du digital. On a la chance en France d'avoir aussi un marché du e-commerce qui est important et qui est en forte croissance. 65 milliards d'euros le e-commerce en France l'année dernière, 15% de croissance. Et nous voyons effectivement le mobile qui prend une place de plus en plus importante dans les transactions faites par les Français en ligne. PayPal, c'est avant tout une plateforme. C'est une plateforme avec pratiquement 180 millions d'acheteurs, 10 millions de vendeurs dans plus de 200 marchés. C'est une plateforme qui est complètement agnostique, quelle que soit la technologie, quel que soit l'accessoire, le terminal que vous utilisez pour faire une transaction. Et effectivement, nous avons déjà pratiquement un tiers de nos transactions qui passent par les terminaux mobiles. Donc le mobile est vraiment au centre de notre stratégie parce qu'effectivement, nous suivons les évolutions du marché, les évolutions du digital. Donc le mobile au cœur de notre stratégie avec toujours pour souci, et c'est vraiment l'ADN de PayPal, la simplification du commerce, la simplification des paiements et surtout la protection et la sécurisation des acheteurs qui utilisent PayPal pour faire leurs transactions.
On le voit dans l'évolution des usages de paiement mobile, il y a tout un pan, c'est le sans contact.
Donc effectivement, on voit beaucoup d'activités en ce moment dans les paiements. En France, il y a un vrai écosystème autour du fintech. Je pense que PayPal, de facto, était la première fintech. Ça fait un peu plus de 18 ans que nous existons. Donc nous regardons aussi ça avec l'angle du consommateur. Quelles sont les attentes du consommateur ? On a annoncé cette semaine au Congrès mobile de Barcelone un nouveau partenariat avec Vodafone pour permettre l'utilisation de compte PayPal dans le portefeuille NFC, donc sans contact de Vodafone, donc qui va d'abord être partenariat qui va d'abord être lancé en Espagne, donc qui permet effectivement au travers du portefeuille NFC sans contact de Vodafone d'avoir une utilisation de PayPal en boutique sur des technologies sans contact.
Est-ce qu'on pourrait imaginer demain un wearable de paiement PayPal ?
C'est quelque chose que nous avons déjà fait en fait en France en décembre dernier lors des Transmusicales de Rennes où effectivement nous avons fait un partenariat avec les Transmusicales de Rennes pour équiper tous les festivaliers d'un bracelet sans contact NFC qui permettait en fait de payer pendant le festival sans cash en ayant en fait son compte PayPal lié au bracelet, ce qui est finalement une technologie assez simple mais qui marche très bien, notamment dans des cas d'utilisation où il y a une forte densité de personnes et où il n'y a pas forcément une couverture 3G ou Internet pour permettre à des technologies un peu plus évoluées de fonctionner parfaitement.
Alors une autre réponse, c'est d'annoncer, c'est de passer quantité de partenariats avec des chefs de file de secteur. Alors vous aviez cité Vodafone, vous avez également passé des partenariats avec des opérateurs téléphoniques latino-américains au Mexique et en Brésil. Et la France alors ?
Je pense que déjà le partenariat a toujours été au cœur de la stratégie de développement de PayPal. Une fois de plus, notre plateforme est agnostique, quelle que soit la technologie, quel que soit le terminal de paiement qu'on a envie d'utiliser, et elle est complètement universelle et ouverte. Donc au quotidien, nous sommes déjà le partenaire de plus de 10 millions de vendeurs qui vendent tous les jours avec PayPal, donc des petits, des moyens, des grandes entreprises. Et effectivement, nous avons pour vocation à nous renforcer ces partenariats partout dans le monde et bien évidemment en France. Je pensais plutôt aussi à tout le mouvement profond qu'on voit en France sur la fintech, mais aussi sur les objets connectés, et qui, je pense, là, amène vraiment des innovations de rupture. Donc, on n'est pas dans le remplacement d'une technologie par un autre, c'est-à-dire je remplace un paiement par carte, par un paiement par téléphone, mais finalement, c'est le même cas d'utilisation, avec des vraies évolutions de rupture, notamment les objets connectés, les technologies embarquées, qui finalement vont créer des nouveaux cas d'utilisation, des nouveaux cas de commerce, et en aucun cas, le paiement peut être une friction ou une barrière dans ces cas d'utilisation. Donc, comment, avec une plateforme comme PayPal, on peut devenir en fait le système opératoire de ces nouvelles technologies, de ces nouvelles évolutions, et de permettre aussi à n'importe quel entrepreneur, en France ou ailleurs, de bénéficier de cette plateforme vraiment globale et vraiment ouverte.
Vous avez également une stratégie de co-innovation, d'innovation ouverte, on a le sentiment. PayPal a acquis récemment Xoom. Xoom qui permet aux résidents américains d'envoyer de l'argent à leurs proches en Afrique sur M-Pesa. Alors M-Pesa qui est un système de paiement mobile excessivement performant. Est-ce que votre stratégie, elle est aussi de tester et d'apprendre ?
Mais bien sûr, parce que ce sont des processus itératifs. On suit l'évolution, on suit aussi cette nouvelle économie où on recentre vraiment l'individu autour de nouvelles formes d'utilisation. Il y a eu tellement de bouleversements dans les technologies. Par exemple, aux États-Unis, on a lancé un partenariat avec Facebook Messenger qui permet de commander un Uber directement depuis Messenger. Donc c'est quelque chose qu'on fait avec notre plateforme Braintree, qui est aussi une plateforme de paiement qui est complète et qui est complètement agnostique. Et effectivement, on a vraiment vocation à continuer à supporter ces cas de co-innovation.
Donc ça quelque part, c'est vous permettre d'avoir un pied dans le monde physique également.
Oui, parce que le monde physique aussi change beaucoup. Une fois de plus, il ne faut pas regarder les évolutions dans le monde physique seulement par du remplacement de quelque chose qui existe, mais aussi sur des nouvelles formes d'utilisation. C'est vrai, il y a quelques années, on n'aurait jamais pensé pouvoir commander un transport depuis son téléphone portable et avoir des nouvelles formes de consommation de transport. C'est vrai qu'il y a plein d'exemples en France, des entreprises complètement formidables comme Blablacar qui réinventent la manière de bouger et d'aller d'un point A à un point B en créant une nouvelle expérience. Et ça, effectivement, c'est vraiment de l'innovation de rupture. C'est quelque chose qui crée quelque chose qui n'existait pas avant.
Donc quelque part, la technologie au service de l'innovation d'usage. Damien Perilla, merci beaucoup. Je rappelle, vous êtes directeur général de PayPal France. Merci.
Lila, merci. On revient dans un instant à suivre sur BFM Business dans cet atelier. Notre passion selon Sanette. Et puis juste après, ce sera le World Tour. À tout de suite.